France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, nous vous invitons aujourd'hui à découvrir les affinités musicales du compositeur Pierre-Henri. Au micro de Pierre Bouteiller, Pierre-Henri nous faisait partager les œuvres de son choix, un peu comme un autoportrait musical de sa personnalité. Aucune de ses propres compositions dans son programme, mais des œuvres de César Franck, Olivier Messiaen, Igor Stravinsky, John Cage, Camille Saint-Saëns et Joseph Haydn, pour n'en citer que quelques-uns. Pierre-Henri était l'invité de France Musique dans l'émission de Pierre Bouteiller, comme de bien entendu, le 17 novembre 1998.
Comme de bien entendu. Comme de bien entendu. Comme de bien entendu. Comme de bien entendu.
Pierre-Henri, bonjour. C'est votre tour de passer à ce comme de bien entendu. Vous avez reconnu bien sûr Michel Simon dans cette chanson tirée du film Circonstances atténuantes. Vous aviez l'air surpris d'ailleurs.
Non mais il me semblait dans ma mémoire que c'était Jean Gabin qui chantait ça. Mais bon, on n'est pas si loin. Simon, Gabin, c'est la bonne époque du cinéma.
Donc un indicatif qui est assez loin de ce que vous faites, c'est de la musique extrêmement traditionnelle avec de l'accordéon. Et on sait, vous, Pierre-Henri, ce que vous représentez dans la perception collective qu'a le public de vous, un homme qui est en avance sur tous les progrès technologiques, un homme de la musique concrète, un homme qui a anticipé beaucoup des avancées techniques qu'a connues la musique. Or, si je jette un œil sur le programme que vous proposez aujourd'hui, pour ce comme de bien entendu qui vous est consacré, je constate tout de même que certes, il y a quelques compositeurs contemporains, François Bell par exemple, mais pour le reste, c'est très classique. Je cite en vrac César Franck, Stravinsky, Saint-Saëns, Honegger, Koechlin, Ravel, Rossini et Haydn. C'est-à-dire que lorsqu'il y a deux Pierre-Henri, celui qui compose et celui qui écoute, et ils ne se parlent pas beaucoup.
Mais si, justement, récemment j'ai fait une œuvrette à propos de Schubert et il y avait plein de citations, des choses que j'aime bien, parce que la musique que j'aime bien, c'est pas la musique que je fais, hein. C'est important de le savoir. Moi, je fais une musique qui est difficile, qui est sombre, qui est isolée, et moi, ce que j'aime bien, c'est au contraire me distraire et qu'il y ait une sorte de rêve permanent. Et au fond, ce programme, c'est un peu un autoportrait de ce que je suis à la maison, de ce que je suis avec des amis. Au fond, c'est une musique, ce que j'ai choisi, c'est la musique que je rêverais de faire, mais j'en fais une autre, comme de bien entendu. Alors, on écoutera donc du Franck. Et pourquoi du Franck ? Parce que j'ai repéré que le début de ce quintet, que je trouve formidable, me fait penser à une musique de film pour Brian de Palma. Vous voyez donc, il y a une grande trajectoire dans tout ça.
Thank you.
C'était partiellement, du moins comme vous avez pu le constater, le troisième mouvement du quintet à clavier de César Franck par l'ensemble César Franck Wallonie-Bruxelles. C'est le premier titre de votre sélection, Pierre-Henri. C'est donc un aperçu de ce que vous écoutez chez vous. Et on rappelle donc qu'il y a une sorte de, non pas de schizophrénie, ce qui serait un mot un peu fort, mais de partage, de dichotomie entre le Pierre-Henri qui produit de la musique et celui qui en consomme.
Oui, je crois que c'est très important pour un compositeur, c'est d'être ailleurs, c'est de faire corps aussi avec le répertoire. Et là, je vais passer directement à un musicien très contemporain, mais il est mort. Mais pour moi, c'est le parrain de la musique d'avant-garde. C'est John Cage. John Cage qui nous a préparé tous les pianos. On n'est que des suiveurs par rapport à lui. Je me souviens en 1949, quand il est venu nous voir avec Père Schiffer, eh bien, il a préparé un piano. Et moi, j'ai suivi. J'ai fait un peu différemment, bien sûr. Mais la symphonie pour un homme seul doit beaucoup à John Cage. Et là, j'ai choisi une de ses dernières pièces, qui est une sorte de grand bruitage inspiré de Joyce et qui a été produit par la VDR et principalement par Claude Schoening.
This is the outfit of the shop between the pools. This is their legal home. Jim's is a human baby this fall. To irrigate the wind. The Jim's father goes far.
Un extrait de Roi Rotorio de John Cage, ce que vous avez choisi, Pierre-Henri. Vous avez parlé d'acoustique. En fait, il s'agit d'un montage électronique de bruit acoustique. Comment peut-on expliquer ? Il convient de s'arrêter un peu là-dessus.
Pour moi, c'est une globalité des sons réels. De la vie, ça me rappelle beaucoup Venise. Je viens de Venise où j'ai enregistré pendant 15 jours les bruits de Venise, ce qui est très intéressant parce qu'il n'y a pas de voiture. mais il y a quand même beaucoup de bruit et il se passe des choses tout à fait fantastiques. Eh bien ça, ça me rappelle un peu Venise, et puis c'est tout à fait dans la mentalité de John Cage, qui aime que on entende tout en même temps, enfin tout ce qui existe en dehors de la vie intérieure. C'est une sorte de globalité, c'est une sorte de grand mélange, et ça j'aime beaucoup. Quoique, effectivement, on peut dire que s'il n'y a pas une construction musicale, mais c'est du John Cage. Donc, la musique vient après ses idées. Ses idées, c'est ce qu'il y a de plus important. Je pense que la musique des idées aussi doit compter.
Le travail de composition, là, il consiste à, d'abord, je dirais, faire son marché sonore, aller puiser des sons un peu partout. Et le travail de composition commence à partir du moment où il mixe ces différents sons.
Oui, il fait les montages, les mixages et toutes les progressions. Mais je crois que c'est aussi lié au texte de Joyce, qui est assez formidable.
Qui est dit en surimpression. De tous ces bruits acoustiques, vous insistez là-dessus, que l'on peut entendre,
oui,
parce qu'ils ne sont pas traités.
En ce moment, si vous voulez, il y a une sorte de nouvelle tendance où on met en avant la musique électronique, même si elle n'est pas vraiment de la musique de studio ou de la musique expérimentale, mais une musique plutôt, ça vient de la techno. Et je crois qu'il faut il ne faut pas oublier que avant tout il y avait un microphone et que ce microphone a donné naissance à la musique concrète, à la musique électroacoustique et ce qui est maintenant, je dirais que je suis l'ancêtre des musiques actuelles, ainsi que d'autres. Mais il ne faut pas oublier le micro.
Lorsque vous disiez que John Cage préparait les pianos, c'est une forme d'euphémisme. Il les préparait comment? Il les déstructurait
Non, un piano préparé, c'est un instrument qui a autre chose que les cordes, c'est-à-dire qu'il y a des bouts de bois, des bouts de fer, du feutre, du liège, et qui permet donc de transcender les résonances, de les rendre encore plus harmoniques ou plus métalliques ou plus transformer le piano en clavecin ou en orgue ou en faire un instrument orchestral, une sorte d'orgue. Voilà, il suffit aussi de microphoniser le piano. Donc Cage est le premier qui a perçu cette imagination d'un grand piano différent.
Tango d'Igor Stravinsky dans un enregistrement que l'on doit au Symphonique de Londres dirigé par Antal de Ratille. C'était un enregistrement réalisé en 1991 de cette pièce qui a été écrite en 1940 pour le piano.
Et
orchestrée par l'auteur lui-même par la suite. Alors,
Pierre, ans après, oui.
Pierre-Henri, ça vaut la peine de s'y arrêter un peu et de commenter, d'expliquer ce choix de cette pièce qui est relativement assez connue quand même.
Bah, moi, je la connaissais pas. Je suis tombé comme ça en écoutant un disque de Stravinsky. Mais pour moi, ça a un côté sentimental et charmant. Et c'est une sorte de paraphrase du jazz en musique classique que je trouve tout à fait étonnante. Ça me fait un peu penser à La création du monde de Darius Milhaud. Et c'est un peu dans la veine aussi de Ebony Concerto de Stravinsky. Donc, moi qui suis très amateur de jazz, j'aime beaucoup ça et ça me rappelle un peu mon enfance.
Là, c'est un jazz.
Enfin, mon enfance musicale.
Oui, un jazz qui est récupéré, amélioré,
qui balance bien,
transfiguré
qui est,
presque.
Qui est symphonique, finalement.
Et le tango, mais le tango naturel, vous l'appréciez, Pierre-Henri?
Oui, oui.
Le tango.
Oui, oui. Moi, vous savez, je suis très éclectique en musique. C'est pas parce que je fais de la musique concrète que je n'aime pas les musiques.
Apparemment.
Oui.
Est-ce ce genre de musique que vous écoutez chez vous régulièrement? Parce que là, il s'agit effectivement d'une sélection des disques que vous aimez écouter.
J'ai quand même pensé à votre émission. Oui. Je me suis dit que, au fond, il fallait faire quelque chose de différent et d'agréable.
Et qui vous ressemble surtout.
Et puis qui a un certain humour.
Et c'est le cas. Mais vous écoutez beaucoup. Vous avez le temps d'écouter?
Non, pas beaucoup. Non, mais il se trouve que dans ce programme, j'ai utilisé quelques titres aussi pour une expérience de synthèse avec Schubert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Lorsque vous écoutez Pierre-Henri, vous écoutez comment? Sur haut-parleur, des grandes enceintes, ultra sophistiquées, au casque, sur un matériel
non,
courant?
Non, pas du tout au casque, mais avec mes enceintes de mixage. Donc, c'est une très bonne écoute, c'est une écoute de concert et... Ça me donne des idées, de toute façon, d'écouter ce genre de choses. Parce qu'on est imprégné d'une musique qui vous rend plus sensible. Ce n'est pas scientifique, c'est ça qui me plaît.
Vous avez un matériel que vous renouvelez sans cesse, vous qui travaillez beaucoup sur la technique, sur les enceintes, les consoles, les amplificateurs.
Non, j'ai un matériel archaïque. Je travaille toujours avec des magnétophones. J'ai une console analogique.
Et des enceintes.
Et des enceintes cabas.
Mais il y en a de modernes, des cabas.
Oui, mais bon, j'ai pas un grand studio finalement. J'ai plutôt beaucoup de sons chez moi que de matériel.
Et vous n'écoutez jamais au casque, il y a une raison?
Si, à Venise, j'écoutais au casque. Bah, parce que le casque, pour moi, c'est quand même un son mental. On entend pratiquement la musique derrière soi. Alors, je pense que la définition d'un studio, il y a une définition beaucoup plus humaine. Je trouve le casque un peu artificiel.
Vous écoutez à niveau élevé?
Non, pas très. Sinon, il y a longtemps que je serais sourd. Non, j'écoute d'une façon extrêmement sympathique, je dirais. C'est une écoute amicale.
On va encore changer de décor musical. Thank you. Le Carnaval des animaux. Alors là, Pierre-Henri, j'ai oublié de dire que c'était l'ensemble Sinfonietta de Londres dirigé par Charles Dutoit. Là aussi, il faut expliquer ce choix, qui est le choix d'une musique qui est très connue, même très populaire.
Oui, mais récemment, j'ai composé une œuvre que j'ai donnée aussi pour la radio, pour ici, une série un feuilleton d'après La Fontaine. Et ces fables de La Fontaine, dites par Jean-Paul Faré, m'ont conduit à faire aussi pour Versailles une suite musicale avec les phrases de La Fontaine. Eh bien, moi j'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup les bestiaires. Dans toutes mes œuvres, il y a des chants, des cris, enfin des gémissements d'animaux. Je pense que c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est ces vocalises vivantes. Au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est la voix, c'est le souffle. Récemment, je suis allé dans un zoo à Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui était tout à fait étonnant comme bruit de singe. On dit bruit, mais en fait, c'est vraiment de la musique pour moi. Alors, j'avais envie qu'il y ait une correspondance avec une musique peut-être traditionnelle, mais très imagée, très inventive. Au fond, Saint-Saëns, c'est plutôt mieux que ce que l'on pense habituellement.
Oui, parce qu'il a l'image d'un compositeur plutôt académique, peu ouvert sur le progrès, la recherche.
Non, enfin, c'est quand même un compositeur très lyrique. Mais moi, je dois dire qu'entre Saint-Saëns et Ravel, je trouve qu'il y a certaines affinités au niveau histoire naturelle. Parce que récemment aussi, j'ai fait une œuvre qui s'appelle Histoire naturelle.
Là, il est urgent, je crois, de désannoncer, comme on dit, car je ne suis pas certain s'il en avait fait une sorte d'écoute à l'aveugle, si tous les auditeurs auraient reconnu cette œuvre. Il s'agit d'un extrait de La Tempête, un prélude d'Arthur Honegger, écrit en 1923 par les musiciens de l'Orchestre symphonique de la Radio de Prague, dirigé par Jiří Bělohlávek. Et effectivement, Pierre-Henri, on disait ensemble, en écoutant cet extrait, que ça ne ressemblait pas à ce qu'on entend habituellement d'Honegger.
Oui, pour moi, c'est beaucoup plus une grande musique de film, une fresque biblique. Moi, ça me fait penser un peu à la Tour de Babel, et c'est d'autant plus intéressant pour moi, c'est que je suis en train de composer une Tour de Babel. Voilà, alors donc, Moi, j'ai entendu ça à la radio. Je dis, mais c'est étonnant, et j'ai voulu savoir, et j'ai acheté le disque.
Oui, parce qu'on passe toujours un peu les mêmes choses. La symphonie d'Itréré, ou Pacifique de 131, ou Jeanne Aubuchet.
Ça peut penser à des très bonnes musiques de films.
Oui, mais il y en a de très bonnes. Oui. D'ailleurs, on peut se demander si les grands compositeurs de musique de films, s'il n'y avait pas eu Honegger, Fauré, Ravel, Saint-Saëns, Franck, ce qu'ils auraient fait.
D'accord.
Quelle est votre conception, on peut s'y arrêter un moment, de ce que doit être la musique de film? Elle doit souligner, elle est vraiment nécessaire? Est-ce qu'elle doit être redondante?
Pour moi, la musique de film ne doit pas vraiment exister. Il doit y avoir une bande son et la musique doit être tout à fait épurée et doit être minimale. Pour moi, c'est ce qui compte dans un film, c'est les rapports entre les bruits, entre la vie, entre le dialogue. Et on doit de temps en temps souligner d'une façon psychologique, mais non pas émotionnelle et non pas expressive. Quand je dis que c'est de la musique de film, c'est de la musique de film qu'il ne faut pas faire. Mais c'est la musique que l'on entend couramment, principalement dans les films américains. D'ailleurs, tout à l'heure, on écoutera un morceau du film Abyss.
Oui, parce qu'il y a des codes implicites maintenant entre les consommateurs de films et les producteurs de films qui veulent que tel effet soit souligné musicalement.
Voilà, ça doit être grandiloquent, pompeux, alors que chez Bresson, par exemple, il n'y a pas de musique, mais il y a une partition de bruit.
Ou chez Romer, il n'y en a pas du tout, non.
Et
plus chez Romer.
Chez Romer, il y en a encore moins, ce sont les bruits de la vie, c'est-à-dire un orchestre de danse, et c'est tout.
C'est une musique en situation.
Donc. Non, je crois que la musique de film est à revoir entièrement, mais à ce moment-là, il faudrait revoir tellement de choses dans le cinéma qu'il faut rester peut-être avec les vastes impressions sonores que l'on entend, par exemple, dans le dernier film de Brian De Palma.
Ce qui est d'ailleurs qui nous ramène au premier disque, ces pulsions, ces pulsations de violoncelle vous faisaient penser un peu à...
Oui, à la Hitchcock, d'ailleurs.
Oui.
Ça me fait penser à... peut-être ce que sera la musique de film demain, c'est-à-dire une musique de film tout à fait extrapolée. Et d'ailleurs, elle est faite par un japonais qui imite Saint-Saëns, à mon sens.
Vous parliez de mentionner Hitchcock. On peut quand même dire, je crois, Pierre-Henri, je parle sous votre contrôle, Bernard Herrmann,
oui,
entre autres. Et l'un de ceux qui a contribué à propager ce code non dit en... qui veut qu'une musique soit parfois quand même redondante. On songe à la scène de la douche dans Psychose, les cordes soulignent le crime qui va être commis.
Mais Herrmann faisait une sorte de dramatisation émotionnelle qui n'était pas trop véhémente. C'était quelque chose de tout à fait réussi en tant que musique. Et comme, par exemple, Jaubert aussi.
Maurice Jaubert. On continue cette promenade musicale à travers votre univers sonore, Pierre-Henri, avec quelque chose, une pièce qu'on va laisser aux auditeurs le soin d'identifier. Peut-être pas reconnu cet extrait du Livre de la Jungle, donc je le désannonce. Cet extrait du Livre de la Jungle de Charles Koechlin, interprété par le musicien de la Philharmonie Rheinland-Pfalz, dirigé par Lev Segerstam. Et là encore, Pierre-Henri, on serait tenté de dire qu'on n'est pas dépaysé avec ce qui précède et peut-être ce qui va suivre tout à l'heure, à savoir une musique qui pourrait être effectivement une musique de cinéma.
Oui, ben non, là je trouve que vous êtes un peu dur.
Pourquoi? C'est péjoratif, le cinéma?
Ah oui. Oui, oui, c'est péjoratif. Non, Kecklin, je trouve, a travaillé avec les modes hindous et c'est une préfiguration d'Olivier Messiaen. Il y a une petite citation de Stravinsky, mais c'est pas grave, au fond, il y a des
il a un peu pompé, non?
Oui, mais on en est tous là à se copier les uns les autres. Non, moi, je trouve que c'est une musique extrêmement soyeuse, extrêmement chatoyante et qui, moi, me fait beaucoup d'effet sur le plan sensoriel.
Pierre-Henri, ce disque en particulier, les disques en général, quand vous les écoutez, y a-t-il des moments de la journée? Comment écoutez-vous? Il y a des moments où c'est par hasard, où il y a des rites, il faut que vous soyez seul, isolé, ne rien faire d'autre, ou bien c'est selon l'humeur?
Non,
mais
j'écoute dans un besoin précis, c'est pour vérifier, c'est pour faire des comparaisons, j'écoute plutôt le soir, mais j'écoute aussi en pensant à mes propres musiques. Je suis pas un auditeur normal. Et puis j'écoute comme ça. Quoi. C'est mon repos. Oui, c'est comme la peinture. Il faut que j'écoute de la musique.
C'est un peu contradictoire parce que
comme je fais de la peinture.
C'est un peu contradictoire, Pierre-Henri, parce que vous me dites que d'un côté vous écoutez pour le repos, et puis tout à l'heure vous m'avez dit en rapport avec ma propre musique. Donc c'est une écoute à la fois gratuite et professionnelle.
Non, c'est en rapport avec des idées, en rapport avec ce que je ferai un jour, mais ça n'a rien à voir, bien sûr. Non, c'est pas contradictoire, c'est une nourriture.
Vous écoutez en voiture lorsque vous êtes en voiture?
Non, parce que je ne conduis pas et je ne vais pas en voiture. Donc ce que j'écoute, c'est ce que tout le monde écoute maintenant, c'est-à-dire de la musique arabe et puis de la musique techno.
Mais vous êtes le père de la techno, vous êtes le responsable de la techno, non?
Je suis pas le responsable,
mais pas coupable.
L'ancêtre, peut-être. Et je suis pas coupable, c'est sûr.
Agonie des feux.
Ce poème de Stéphane Mallarmé a été mis en musique par Maurice Ravel. C'est Didier Henry, le baryton Didier Henry, qui l'a interprété avec des membres de l'Orchestre National de France. Pierre-Henri, là encore, commentaire. Il y a une logique avec tout ce qui précède.
Oui, nous avons un programme. Il y a une unité sensuelle que je trouve tout à fait captivante. Et puis je dois signaler que en 1913, qui est pour moi l'année la plus importante de la création du XXe siècle, puisque il y a eu aussi bien en peinture qu'en musique qu'en littérature énormément de choses, que cette œuvre date de 1913 comme le Sacre du printemps. Et pour moi, c'est assez important. D'ailleurs, je pense un jour consacrer une émission rien qu'à cette année. Voilà, c'est pour moi quelque chose de tout à fait considérable, tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a fait en 1913.
On va continuer peut-être dans la sensualité avec Messiaen.
Avec Messiaen, qui a été mon professeur d'harmonie. Je ne dis pas mon professeur de composition, parce que j'ai jamais eu de professeur de composition.
Connu la Turonga et la Symphonie d'Olivier Messiaen. Vous avez choisi, Pierre-Henri, un enregistrement relativement ancien, mais qui tient bien le coup, entre guillemets, techniquement. C'est celui de l'Orchestre National de la RTF. À l'époque, c'était la RTF, dirigée par Maurice Leroux, avec, comme de bien entendu, Yvonne Loriot au piano et Jeanne Loriot aux ondes Marteneau.
C'est délicieux, les ondes Marteneau.
Vous les utilisez ? Vous les avez utilisées ?
Non, jamais, mais je trouve que c'est irremplaçable. Bien sûr, maintenant, il y a les sons électroniques, on en revient aux synthétiseurs, à l'informatique et tout ça, mais rien ne remplace au fond une lutherie tout à fait comme ça, originelle.
On les utilise plus beaucoup.
Non.
Il y a une raison.
Vous dites que Brel aussi les a utilisés.
Jacques Brel les a utilisés. Oui. En variété, c'est sans doute le seul d'ailleurs, à ma connaissance, qui a utilisé les ondes. Et pourquoi on n'utilise plus les ondes en matière de création contemporaine ? C'est le synthé, mais ça ne remplace pas pourtant.
Ça ne remplace pas, mais à ce moment-là, je crois qu'en musique contemporaine, on devrait utiliser la scie musicale. Au moins, ce serait marrant.
Et alors, Messiaen a été votre maître, donc, disiez-vous.
Il a été mon professeur d'harmonie et il m'a ouvert les oreilles pour beaucoup de choses. À cette époque-là, je n'étais pas très musicien, je pense. J'étais plus un plasticien. Au fond, j'aimais pas beaucoup la musique. Et puis finalement, après des études au conservatoire très classiques, la classe de Messiaen m'a fait entendre plein de choses, plein d'œuvres comme Péléas, comme Carmen, comme Bach, etc. J'ai entendu vraiment ce que c'était qu'une œuvre de musique analysée par Messiaen. Donc Messiaen a été pour moi le révélateur parfait pour ensuite obliquer, ensuite devenir radicalement un autre musicien.
Vous êtes retrouvé avec Boulez alors, chez Messiaen.
Il y a eu Boulez, oui, il y a eu même Yvonne Loriot, il y a eu plein de gens. C'était une grande classe.
Ce qu'il vous a appris apparemment, c'est le travail sur l'harmonie aussi, puis les timbres aussi, apparemment, non ?
Le style et le découpage musical, le scénario musical. Il était très fort pour faire passer ce que c'était que les idées avant la musique, ce qui était une sorte de récit musical.
À force de parler de musique de film, eh bien en voici mais une vraie. Musique du film The Abyss, imaginée par un compositeur qui s'appelle Alan Silvestri. Apparemment, Pierre-Henri, un compositeur qui écoute les autres avec un carnet de notes, parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on a écouté jusqu'ici qui se retrouve chez Silvestri.
Ah oui, bah c'est ce qui existe dans les films américains. Moins maintenant, mais en 89, c'était une sorte de compilation de Stravinsky, de Honegger. Je dirais que au moins, ça, un intérêt, c'est que c'est bien orchestré et que ça se passe sous l'eau. Donc, c'était un merveilleux film avec des effets extraordinaires. Maintenant, on fait des choses avec les échantillonneurs, avec
les sampleurs,
avec des choses comme ça. Et au fond, c'est plus figé. Là, il y a un mouvement, il y a une vie. Enfin, c'est la vraie musique de film à l'américaine.
C'est des instruments acoustiques, c'est-à-dire, oui. Ça s'est entendu, il faut le rappeler. Mais est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce... Non pas que je veuille vous mettre en contradiction systématiquement, mais avec ce que vous disiez tout à l'heure, que la musique au cinéma ne devrait pas exister ou...
Ben oui, mais je suis à la fois amateur et contre esthétiquement. Si je faisais un film, je ne prendrais pas cette musique-là. Mais d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de musique de film et je pense que je pourrais les critiquer aussi. C'est une fonction, au fond, la musique de film, c'est pas de la vraie musique. On le sait encore puisque ça ressemble aux autres musiques. Il n'y a pas de personnalité.
Quels sont les films les plus connus dont vous avez fait la musique ?
Eh bien, il y a un film qui n'est pas très connu, mais qui est un vrai film avec Juliette Gréco, avec des personnages d'après Boileau-Narcejac, qui s'appelle Maléfice, un film de Henri Decoing que j'ai fait dans les années 60 et qui était très, très Maurice Jarre, je trouve.
Et alors, qui était le patron, vous ou Henri Decoing ?
Non, c'était Henri Decoing.
C'est-à-dire qu'il se battait pour avoir moins de musique et vous pour en avoir plus ?
Voilà, pour qu'elle soit moins forte et moins plus forte. Je dois dire qu'on a toujours des problèmes sur les intensités quand on fait une musique de film.
Quand vous allez au cinéma, vous allez au cinéma, je suppose, comme tout le monde.
J'y vais beaucoup.
Alors, vous écoutez plus les films que vous ne les regardez ?
Non, je les regarde. Puis de toute façon, maintenant, c'est impossible de ne pas entendre avec tous les effets Dolby Stéréo, THX. On est submergé.
Avec les haut-parleurs dans la salle et
voilà,
dans le fond.
Ça, j'aime pas beaucoup.
Vous êtes contre ?
Parce que je trouve ça irréel et je trouve que c'est un spectacle forain.
Mais vous êtes pour la tradition des haut-parleurs de façade derrière l'écran uniquement ?
Avec petit écran.
Mais stéréo quand même, non ?
Non, c'est pas obligatoire. il suffit qu'il y ait une présence et qu'il y ait quelque chose de vraiment vital, comme dans les films de Renoir.
Au fond, vous n'êtes pas passionné par le son, plus par la musique que par le son.
Ah ben si, j'aime beaucoup le son, mais j'aime le son dans mon studio. Au fond, le son des autres, mais là, on va peut-être parler de quelqu'un qui m'est très sympathique musicalement et amicalement, puisque ça a été le responsable du GRM, c'est François Bell, qui m'a envoyé son dernier disque, et j'ai trouvé ça très... j'ai trouvé ça très spirituel comme son. Voilà, c'est une œuvre que je trouve originale, et d'ailleurs sa carrière de compositeur est très sensible, et c'est vraiment lui. C'est de la musique électroacoustique qui est très typée.
Extrait de Morceau de ciel de François Bell, là, Pierre-Henri, c'est un choix, je dirais, presque confraternel, parce que c'est entièrement de la musique électronique.
Oui, mais pour moi, ça ne sonne pas électronique, ça, c'est une musique naturelle, une musique de berger, une musique extérieure. Moi, j'aime beaucoup le mot extérieur, c'est-à-dire que ça fait vraiment entendre des sons qui ne viennent de nulle part. C'est une musique à la fois mentale et extérieure.
Et électronique, encore une fois, je le répète, mais accessible, parce que voilà, le mot électronique fait encore un peu peur. Alors que chez les jeunes, l'électronique, c'est la techno, au fond.
C'est la techno, mais ça, c'est pas techno, fort heureusement.
D'ailleurs, une parenthèse, lundi 30 novembre, vous allez être dans un haut lieu de la techno, du rock, du rap, du rock, du jazz, du métal.
Ah oui, à la Cigale.
À la Cigale.
Oui, il y a... C'est un lieu qui est...
C'est un choix de votre part
C'est un choix un peu humoristique, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de concerts dans les institutions, et là j'avais envie de me frotter un petit peu, je dis pas à la variété, mais à ce qu'on appelle en ce moment les musiques actuelles. Peut-être pour être au goût du jour, je sais pas pourquoi j'ai choisi cette salle, mais enfin c'est là où je vais donner en création à Paris la 10e remix, qui est donc un remix de ma 10e symphonie de Beethoven, et ainsi qu'une nouvelle improvisation et variation sur la fameuse messe pour le temps présent, qu'on continue à écouter beaucoup, c'est très bien, ça me fait plaisir. Mais
c'est un des morceaux les plus populaires de l'histoire de la musique contemporaine.
Oui, c'est de la musique contemporaine, c'est à la fois savante et populaire, comme aimait le dire Maurice Fleuret.
Ça a été des centaines de milliers d'albums vendus.
Oui, plusieurs centaines.
Comment l'expliquez-vous, ce succès populaire auprès des jeunes, puisqu'on le rejoue actuellement?
Non, mais à cette époque-là, en 1950, non, 1967, Pour Maurice Béjart, j'ai donc composé des jerks qui étaient au goût du jour, qui étaient inspirés des films américains comme Les Anges Sauvages. Et ça a très bien marché, peut-être grâce à Maurice Béjart, qui a fait une tournée triomphale avec Metz pour le temps présent. Et puis finalement, bien, je crois que les gens sont habitués à ça, et puis tout le monde l'a écouté. C'est devenu un standard, comme une chanson
un
de
tube,
Trenet.
Quoi.
Oui,
un tube. Oui. Et alors à La Cigale, ça sera donc votre...
Un remix YouTube.
Oui, YouTube, et puis
moi,
vous n'arrêtez
aussi...
pas de... Au fond, c'est le work in progress, comme disent les Américains,
oui,
incessant, quoi.
Moi, j'aime bien les variations multiples et variées.
Absolument. Et d'ailleurs, avec vous, on va encore varier le plaisir dans ce comme de bien entendu qui vous est dévolu, Pierre-Henri, puisqu'on va passer directement de François Bayle à Rossini. Sonata 4 de Rossini.
Ça fait du bien après
puis c'est une œuvre de jeunesse. Hein,
tous les chromatismes oui. qu'on a entendus.
Il a écrit très
à
jeune.
À 12 ans, c'est ça qui me plaisait aussi pour ce choix.
Et j'ai oublié de dire qu'il était interprété par l'ensemble des I Musici. Pierre-Henri, on va terminer cette promenade à travers votre répertoire égoïste, dirais-je, enfin l'un des répertoires égoïstes, parce que je suppose qu'il pourrait y en avoir d'autres, avec Joseph Haydn. Là encore, est-ce qu'on peut, on est parti de Franck jusqu'à Joseph Haydn, en passant par Bayle, Messiaen et la musique d'un film, est-ce qu'il y a toujours un fil conducteur entre cette dernière œuvre et tout ce que je viens d'indiquer?
Oui, cette dernière œuvre est pour moi une sorte d'explosion mystique très réussie, tout en étant intériorisée. D'abord, c'est une œuvre pour quatuor, il y a eu une version pour orchestre, mais moi, je pense que Haydn est peut-être le plus grand compositeur, parce qu'il fait vraiment, il met en place des phrases, qui sont les phrases qui viennent d'une certaine morale religieuse tout à fait étonnante. C'est une préfiguration de Mozart, je trouve que ça me fait penser au Don Juan, ça me fait penser à beaucoup de choses, et c'est au fond très proche de moi parce que j'ai composé beaucoup d'œuvres religieuses.
Il s'agit, je le rappelle, donc des 7 dernières paroles du Christ, c'est l'introduction de ce quatuor.
Thank you.
l'introduction du quatuor de Joseph Haydn, les sept dernières paroles du Christ par le quatuor Tatrail. C'est le dernier disque que vous nous avez proposé, Pierre-Henri, pour ce « Comment l'entendez-vous » qui vous est consacré. Je suppose qu'il correspond à votre humeur musicale ce novembre 98. Est-ce que vous pourriez en faire un radicalement différent à une autre époque, selon
bien
l'humeur,
sûr, bien
qui
sûr,
serait en totale contradiction avec ce que vous venez de dire?
Voilà, j'aime bien être différent, j'aime bien être autrement, mais là c'était, je pense, un programme assez... finalement unifié, et puis ça se termine par une transcription. Moi, j'aime beaucoup les transcriptions. Et Haydn avait d'abord une version orchestrale, et qu'il a ensuite réduite. Donc, j'aime bien ce qui est une sorte de quintessence. Voilà, pour moi, c'est une quintessence de la musique.
Merci Pierre-Henri, et à bientôt peut-être.
C'était l'émission de Pierre Bouteiller, comme de Bien Entendu, qui avait pour invité le compositeur Pierre-Henri en 1998. Cette archive est à réécouter ou podcaster sur le site francemusique.fr à la page des Trésors de France Musique. Merci à Béatrice Trichet à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son, avec la collaboration des documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.